membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé, c'est marqué Gospor en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol, la pression, les menaces.
Que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas, les jeunes, en sont totalement responsables.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Info qui commence. Alors, on va commencer par vous faire un petit bilan et récit des manifestations qui ont eu lieu hier à Lyon et ailleurs.
On continuera en parlant de l'abandon du projet de constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité.
Ensuite, on parlera des déclarations de la ministre du bien nommé ministère des droits des familles, de l'enfance et des femmes.
Après, on fera un petit point sur la mise en application de la loi santé qui porte notamment sur le remboursement de l'IVG.
Ensuite, on vous parlera de la négociation de la convention sur l'UNEDIC.
On vous parlera un petit peu des services civiques qui sont embauchés en masse par Pôle emploi partout en France.
On fera un petit retour sur les tests osseux.
Et puis, on parlera de la fin du plan froid.
Et on finira enfin par des chroniques tout droit venues du Kurdistan.
Et on commence tout de suite en musique. Tu peux nous annoncer ce qu'on va écouter ?
Avec un morceau d'un groupe québécois qui s'appelle Mise en demeure et qui s'est fait connaître au moment du printemps érable en 2012.
Des programmes sociaux qui demandent aux pauvres de travailler plus pour que les riches payent moins d'impôts. On se stache tous ensemble dans les bureaux de la loto, puis on chante des beaux slogans. On est bien belles, on est bien beau, et on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand ils nous demandent gentiment de partir, que les gardes nous approchent un peu pour pas que la situation empire, ils nous sifflent à l'oreille un doux avis d'éviction. Les policiers courent à l'appel pour faire leur job avec passion. Et nous on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand l'ancien meute rappelait pour nous protéger des méchants, ils tapent sur le bouclier, ils sont pas bien tête avec nos slogans. Et on se met à genoux, les médias vont prendre des photos, fait qu'on fait des oreilles de lapin. On est rebelles, on est pas fins. On reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Vu qu'on fait des signes d'épices et qu'ils prennent du coin de Cayenne, on s'amuse, on est festif en citoyens et citoyennes. Et ils tabassent des militants, ils foutent toute leur violence. Ils les arrêtent arbitrairement pour leur faire passer trois jours en dedans. Et nous on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Ils nous envoient des flashbombs qui nous explosent dans la gueule. Nos amis se font péter des membres. Y'en a même un qui perd un œil. On dérange rien, de rien. On reste pacifique.
distinguons un cégepien un peu trop idéaliste. On va peut-être se dire, mine de rien, qu'il serait temps qu'on réagisse.
Et il y avait hier à Lyon des dizaines de milliers de manifestants pacifiques qui défilaient, j'ai fait la Marseillaise alors que c'était québécois, n'importe quoi, qui défilaient de la station Sans Souci à Bellecour. Les centrales syndicales avaient fait presque le plein. Les flics aussi, et parmi ce beau monde, on a vu aussi des lycéens, des étudiants, des jeunes et des moins jeunes dans les interstices laissés entre les organisations et aussi devant la manif après un chouette mouvement de doublement, doublage, le cortège de la CGT s'est fait doubler par les jeunes. Tout le monde a fini à Bellecour, où les policiers avaient fermé toutes les rues, sauf celle donnant sur le Rhône et la Saône, celle du cortège donc. Et en plus des habituels Robocop, de la BAC, etc., il y avait cette fois-ci les charmants camions armés de lance à eau. Et ceux-ci ont finalement servi, puisqu'après avoir fait un usage quelque peu disproportionné des lacrymos, la police a utilisé ses lance à eau contre les manifestants déterminés qui continuaient de faire face. À 16h, 17h, enfin entre 16 et 17, c'était plié. Une vingtaine d'interpellations et la place Bellecour était vidée. Celle de Colbert, dans le même temps, sur les pentes de la Croix-Rousse, a alors commencé à se remplir. Et du coup, les flics ont déménagé et sont venus se tenir tout autour des peut-être 200 ou 300 manifestants qui avaient gagné les pentes et la charmante petite place Colbert. Ceux-ci sont alors allés, à la vue des policiers, jusqu'à l'esplanade en bas de la rue des Pierres Plantées, où il y a une jolie vue sur Lyon, et vers 20h, tous ces manifestants, donc 200 ou 300 personnes, est parti en manifestation sauvage, arpentant les pentes et en colorant les murs. Et voilà, et au bout d'un moment, rue Burdeaux, en descendant la rue Burdeaux, cette jolie rue pleine de galeries d'art contemporain, la police a un petit peu agacée de cette prise de liberté, a fait face, elle a bloqué la rue, elle a priori tiré au flashball sur les manifestants, en tout cas sur quelques-uns, et dans tous les cas, il faut bien tester un petit peu ses armes, hein, ça se périme vite, et du coup, le cortège s'est alors divisé en petits groupes. Voilà, pas mal de monde est revenu ensuite sur l'esplanade, improvisant un feu et buvant tranquillement des bières et joyeusement. Vers minuit, 11h minuit, la police est revenue, elle est intervenue pour disperser tout le monde et elle a réussi son coup, ce qui était moins vrai à Paris puisque les Parisiens sont restés plus longtemps sur la place de la République. C'est seulement à 6h du matin qu'ils sont intervenus pour disperser leur rendez-vous, nuit debout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs en France, à Paris peut-être, et dans d'autres villes ?
Eh bien, il s'est passé des trucs dans vraiment plein de villes, mais on va essayer de faire un petit paysage un peu rapide. À Tours, d'abord, il y a 10 000 personnes qui ont été, malgré une bonne pluie, dans la rue, avec beaucoup d'affiches et de slogans, et donc ça, avant et pendant la manif. Et c'est avec plaisir qu'on voyait que c'était les étudiants et les lycéens en tête du cortège, comme ça a été le cas dans pas mal de villes. À Toulouse, il y a eu beaucoup de sites bloqués, la fac, l'école des Beaux-Arts, 5 lycées, avec même un lycée privé, et 100 000 personnes dans la rue. Une manif sauvage a séparé du cortège pendant un bon moment, plus de 2 heures. Et puis quand les deux manifestations se sont retrouvées, ça a commencé à bouger et ils ont été dispersés avec une belle pluie de lacrymo. Pendant ce temps, il y a 500 manifestants au moins qui ont tenu tête aux flics pendant un bon moment. Et puis en milieu d'après-midi, il y a eu la BAC et des lâchers de chiens qui ont semé le trouble et qui ont fait jusqu'à 9 interpellations apparemment. À Grenoble, il y a eu 12 arrestations et 4 blessés. En fait, la manifestation a fait donc pareil avec les lycéens et les étudiants en tête de cortège. On fait pas mal de casses de banques et puis aussi la vitrine du siège du Dauphiné libéré. Du coup, là-dessus, il y a eu. Tout à fait, c'est assez chouette. Donc, peinture et puis vitrine défoncée. À gogo. Et puis il y a eu après en fait à la fin de la manif, normalement à 18h il devait y avoir une projection de Merci Patron qui a été empêchée par les CRS et par la BAC, et là il y a eu une très grosse répression au parc Paul Mistral avec donc justement pas mal de conflits qui ont duré longtemps, et puis par contre ça a pu se disperser et se retrouver plus tard pour faire une manif sauvage qui a duré jusqu'à plus de 10 heures du soir, donc qui a tenu un bon moment. À Marseille, il y a eu un blocage du lycée Grandmont. À ce moment-là, il y a eu il y a eu notamment une lycéenne qui a été embarquée, et ça a un petit peu centralisé en fait les lycéens devant ce lycée. Donc il y a eu un gros rassemblement de lycéens et ils ont rejoint la manif. Ça a été assez mouvementé, il y a eu pas mal de lacrymo avec a priori 9 personnes arrêtées dont 5 mineurs, et du coup il y a beaucoup d'appels à témoignages qui sont lancés sur Marseille pour essayer en fait d'améliorer la situation de ces mineurs qui ne sachant pas exactement comment faire n'avaient pas forcément eu les bonnes réactions en garde à vue. Du coup, à Caen, 10 000 personnes, ils ont essayé de bloquer le périph, mais 1 000 personnes, pardon, ont essayé de bloquer le périph, et les 10 000 étaient dans la manif. Et donc là, ils ont été arrêtés par pas mal de lacrymo. Du coup, ça n'a pas pu se faire. À Paris, il y a plusieurs milliers de personnes place de la République qui sont restées jusqu'à très tard. Donc vraiment, le mot d'ordre « ne rentrez pas chez vous » est bien passé. Ils sont restés tard dans la nuit, jusqu'à plus de 5 heures du matin. À ce moment-là, ils ont été dispersés. Mais par contre, il devrait y avoir une occupation de la manif qui perdure, qui reprend avec une espèce de d'autorisation a priori jusqu'à samedi prochain. Voilà, il y a tout ça qui s'est passé dans ces villes et dans bien d'autres encore. Et dans toutes ces villes, la lutte continue. Et à Lyon, c'est pareil. Et du coup, c'est pour ça que c'est bien de savoir les petits rendez-vous des jours à venir.
Alors les rendez-vous, on les a pas précisément, mais ce qui est certain, c'est que comme nationalement c'est appelé, il y aura une manifestation mardi 5 avril, donc ça va probablement partir vers 13h-13h30, probablement de Bellecour ou de la manufacture des tabacs, et puis il y en aura une autre samedi prochain, donc le 9 avril, et ça on aura le temps de vous retrouver pour donner les informations.
Et avec ça, on part joyeusement écouter Annie Cordy, CRS.
Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. C'est un garçon merveilleux qui a les yeux presque aussi bleus que son uniforme moelleux. Quand dans ses bras je me glisse entre les heures de service, il me dit à la police. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. Et quand il veut m'enlacer, pour ne pas m'impressionner, il enlève son casque, son sifflet, sa matraque, son pistolet,
lisière, son bouclier, ces grenades qui me font pleurer. Moi j'aime me galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau, mais jamais il ne confond sa passion et ses fonctions. Il m'emmène quand je suis sage sur l'autoroute à péage, mais au lieu de m'embrasser, il me fait compter ses PV. Moi j'aime me galonner des compagnies républicaines de sécurité, et quand je suis entre ses bras, rien ne peut m'arriver, la terre peut bien s'écrouler. Moi j'aime me galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. La la la.
C'est qu'une dictature. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Le président de la République a annoncé mercredi 30 mars l'abandon de la réforme constitutionnelle lors d'une courte allocution télévisée depuis le Salon Napoléon, salon qui se trouve au Palais de l'Élysée. Alors, après 4 mois de débats assez dégueux sur la déchéance de nationalité et sur la constitutionnalisation de l'état d'urgence, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat ensemble, ne seront donc pas convoqués. Le pouvoir tente d'en faire porter la responsabilité aux sénateurs de droite, notamment. Revenons donc rapidement sur cette petite manœuvre politicienne. Concrètement, d'abord, c'est un peu vrai, pour que la réforme constitutionnelle puisse passer, le gouvernement avait besoin que le Sénat vote le texte en l'état, comme l'avait déjà fait l'Assemblée nationale. Le Sénat, dominé par la droite, l'ayant refusé en modifiant le texte sur la déchéance, le gouvernement ne pouvait donc plus compter sur une majorité des 2/3 nécessaires pour modifier la Constitution. C'est-à-dire que pour modifier n'importe quel article de la Constitution ou ajouter des articles de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès doivent être d'accord pour 2/3 des représentants. Techniquement, c'était donc compliqué pour le gouvernement. Mais politiquement, ça tombait très bien aussi pour lui. Le projet de constitutionnalisation a été annoncé devant le Congrès réuni à Versailles au lendemain des attentats du 13 novembre. On le rappelle, on en a souvent parlé ici à l'antenne. C'est donc dans l'émotion et l'outrance sécuritaire que Hollande avait choisi très martialement de proposer la constitutionnalisation de l'état d'urgence et la déchéance de nationalité. C'est-à-dire faire de l'état d'exception la règle, faire des binationaux, des citoyens de seconde zone, comme le demande depuis toujours, ou presque, l'extrême droite. Et c'est droit dans ses pompes que le François annonçait ça, à l'époque. C'était donc en novembre dernier. Jamais, sans doute, il ne s'était senti aussi président, jamais non plus, il n'avait parlé autant à droite. Depuis, certains frondeurs du PS ont raillé le projet de déchéance, seulement celui-ci, hein, pas trop l'état d'urgence, et la gauche parlementaire ne cachait plus son désaccord. Les Verts, par exemple, ou le Front de Gauche, là aussi, seulement sur la question de la déchéance, pas tant sur l'état d'urgence. Politiquement, donc, Hollande a engrangé le capital fermeté, discours de l'ordre, pour ratisser à droite, et en abandonnant ce mercredi le projet, au prétexte qu'il n'a pas les 2/3 qui lui permettent de modifier la Constitution, il pourra, dès lors, plus facilement rassembler ses troupes à gauche, donc, lors des prochaines échéances pour la fin de son quinquennat, et évidemment pour la suite 2017. Si les attentats risquent de ne pas s'arrêter dans notre pays, il y a fort à parier que demain, en tout cas, une nouvelle majorité proposera des projets sécuritaires et liberticides équivalents. Il ne faudra pas alors, et à ce moment-là, oublier que c'est bien ce gouvernement issu du Parti socialiste qui, le premier, aura porté jusque dans les assemblées un projet autoritaire et xénophobe. Ce même parti, qui, épaulé par les médias, aura largement préparé l'opinion à accepter le pire. Et tant qu'on est dans les petites manœuvres politiciennes, revenons un instant aux manifestations d'hier, puisque dans les manifestations, des journalistes de Mediapart ont pu croiser Jean-Luc Mélenchon dans le cortège qui nous disait, et qui disait à ses journalistes, je cite, j'arrive pas à imiter Mélenchon, je ne fais que citer, « Je me réjouis de ce que des milliers de jeunes soient en train d'apprendre ce qu'est la lutte sociale. J'espère que ce grand exercice d'éducation populaire dure encore un peu, parce que la maturation sociale est un terrain pour nous. » Et Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, un petit peu concurrent de Mélenchon pour l'élection de 2017, de rajouter, beaucoup plus limpide et plus clair, on ne peut qu'être content que tout le monde soit là, de la gauche du PS jusqu'à la gauche de la gauche. C'est ce qui compte. Le périmètre à rassembler avant la présidentielle, il est là. Mais nous ne sommes qu'au début de l'année 2016. Il reste encore un avant 2017. Tout est bon à prendre tant que chacun ne reste pas dans son couloir. Tout est bon à prendre, donc, pour Pierre Laurent. Les croque-morts du mouvement social sont bien vivants. Méfiez-vous, vous risquez de les rencontrer en manif. Voilà pour cette brève sur l'abandon donc de la constitutionnalisation de l'état d'urgence et de la déchéance de nationalité. Abandon, en tout cas, pour le moment. Et revenons, puisqu'on parle un petit peu de gouvernement, de la déclaration de la ministre du mal nommé ou bien nommé, enfin en tout cas c'est clair, ministre des droits des familles, de l'enfance et de tout ce qui va avec les femmes pour le gouvernement en tout cas. Donc quelle a été cette déclaration ?
Alors, le mercredi 30 mars, sur RMC, Laurence Rossignol, donc la ministre, comme on vient de le dire, hein, des familles, de l'enfance et des droits des femmes, oui, rien que ça, réagissait à un dossier paru mardi dans Le Parisien, mettant en lumière des marques qui se lancent dans leur marketing ou avec des lignes de vêtements spécifiques sur le créneau de la, je cite, hein, mode islamique. H&M, Uniqlo ou encore Dolce Gabbana font partie des mastodontes du prêt-à-porter qui investissent dans ce très lucratif marché, estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars à l'horizon de 2019. Des foulards, des hijabs ou encore des burkinis seront bientôt en vente en France dans de grandes enseignes. Invitée à s'exprimer en direct sur le sujet, la ministre a fustigé les dites marques pour leur manque de responsabilité en les accusant de faire la promotion de l'enfermement du corps des femmes. Et quand le journaliste de RMC, Jean-Jacques Bourdin, souligne que des femmes choisissent elles-mêmes de porter ces tenues, la ministre lâche, et je cite, « Il y a des femmes qui choisissent, il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. Je les affronte sur le plan des idées et je dénonce le projet de société qu'elles portent. Je crois qu'il peut y avoir des femmes qui portent un foulard parfois et qu'il y a des femmes qui veulent l'imposer à tout le monde parce qu'elles en font une règle publique. » Voilà ce qu'elle a dit, Laurence Rossignol. Et puis on peut aussi pointer l'incapacité de répondre de Jean-Jacques Bourdin qui, comme ce qui venait d'être dit était normal, a rien dit et a même plutôt été complaisant. Plus tard, pour s'expliquer sur l'utilisation du mot nègre, la ministre ajoute « Le mot nègre est un mot péjoratif qui ne s'emploie plus que pour évoquer l'esclavage en référence à l'ouvrage abolitionniste de l'esclavage des nègres de Montesquieu. » Il n'y a donc pas de provocation de ma part, ni de volonté de choquer. C'est un mot que je n'emploie en aucune autre circonstance. J'ai sous-estimé que la référence n'était pas évidente. Voilà.
C'est vrai que quand on entend ce mot, on pense directement à Montesquieu.
Bah voilà. Donc c'était évident. Son explication qu'elle a avancée donc, bah, avec la plus grande condescendance, renvoyant à un problème de culture. On ne sait pas bien pour qui elle se prend. Et donc à l'entendre, il y aurait donc eu des personnes pour défendre cette négation absolue de leur être, légitimée par la stigmatisation de leur couleur de peau. La ministre témoigne ici de son inculture par rapport à l'histoire de l'esclavage, et cela fait écho à un problème plus profond. Elle n'est pas la seule qui n'a pas eu accès à cette histoire-là. Il y a un problème de méconnaissance qui est absolument criant et béant. Sur l'usage du mot nègre, force est de constater qu'en 2016, il faut toujours affirmer son caractère raciste, un terme qui rappelle ces heures macabres de l'histoire, histoire que la France aime confiner à l'oubli et dont elle tolère la minimisation et se complaît dans la déresponsabilisation, voire le négationnisme et le révisionnisme. Mais si tous nos politiciens peuvent dire en toute tranquillité des horreurs pareilles et les assumer sans honte le lendemain, c'est bien parce qu'insulter les musulmanes et les noirs de France ne coûte absolument rien. Ils sont à peu près sûrs de pouvoir continuer d'occuper leur poste de ministre malgré des injures racistes d'une violence inouïe qui heurtent une partie non négligeable de la population française. C'est vraiment très profond et ça révèle une forme de tolérance pour ce type de racisme des élites. Et ces derniers, sous prétexte d'être de gauche, se sentent complètement insoupçonnables quand il s'agit de racisme. Parce qu'il faut aussi préciser que Madame Rossignol a été une des fondatrices de SOS Racisme. Alors, attends, on comprend mieux. Et puis ce mépris condescendant avec lequel la ministre dit vouloir aider les femmes musulmanes voilées qui seraient forcément opprimées, selon sa vision très étroite du monde et des femmes qu'elle est censée défendre. N'est-ce pas là le signe que l'islamophobie est bien la chose de France la mieux partagée ? Et puis quand elle dit aussi, parce qu'elle a dit ça aussi, plus les droits des femmes avancent, plus les jupes raccourcissent, doit-on comprendre que notre émancipation doit passer par l'exhibition de notre corps ? Si une femme a envie de se dévêtir ou de se couvrir, c'est son droit le plus élémentaire. Quand est-ce que la France se débarrassera de cette obsession coloniale, puis néocoloniale, à vouloir dévoiler les femmes pour les libérer ? Obsession qui tend en plus à se cacher sous les habits d'un certain féminisme, en réalité discriminatoire, excluant, et au service d'une logique sexiste, patriarcale, bourgeoise, raciste et islamophobe. Dans un contexte où le racisme et l'islamophobie non seulement humilient, mais criminalisent des millions de personnes, les voix qui s'opposent doivent maintenant s'élever.
Merci, merci. Voilà. Et on continue ensuite pour parler de l'IVG d'aujourd'hui, c'est encore toi, est intégralement remboursé.
Oui, bah du coup c'était juste pour donner les petites infos là, puisque du coup dans le cadre de la loi santé aujourd'hui, l'IVG est remboursé à 100% par la sécurité sociale, c'est-à-dire que depuis 2013 l'acte lui-même était déjà remboursé, mais maintenant il y a les analyses, l'échographie, les consultations avant et après qui sont aussi remboursées par la sécurité sociale à 100%. Les petits changements aussi, c'est que les sages-femmes, elles vont pouvoir proposer les IVG médicamenteuses, que les médecins exerçant en centre de santé devraient pouvoir proposer les IVG instrumentales dans les centres de santé et que le délai de réflexion de 7 jours est supprimé. Il est cependant maintenu à 2 jours pour les mineurs. Du coup, j'en profite juste pour faire une petite annonce pour dire que le collectif de défense de l'IVG dans le Rhône propose 2 projections débat dans la semaine prochaine sur l'avortement en Europe. On pourra découvrir le documentaire Yo Decido sur la lutte des Espagnols pour défendre leur droit à l'IVG, une lutte qui avait fait reculer le gouvernement conservateur. Et puis il y aura aussi la présentation d'un état des lieux de l'avortement en Europe, les reculs, les avancées, les lois et aussi les conditions d'accès réel, et puis une analyse des stratégies des opposants à l'IVG en Europe. Donc tout ça, c'est le 4 avril à 18h à Lyon 2 dans le Grand Amphi sur les quais, donc 18 quai Claude Bernard à Lyon 7e, et le 7 avril à 19h30 au Palais du Travail de Villeurbanne, c'est 9 place Lazare Goujon. Et c'est le même format, mais c'est dans 2 lieux différents. Ça sera le même documentaire, mais voilà, si c'est 2 lieux. Voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et maintenant, on va parler de l'assurance chômage. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça y est, le temps est venu des négociations sociales entre le patronat et les syndicats. Donc ça, c'est déjà en négociation depuis la fin février pour revoir voilà, les règles de l'assurance chômage. Et les patronats et syndicats ont jusqu'au 30 juin 2016, date d'expiration de l'actuelle convention UNEDIC, s'ils ne veulent pas que l'État reprenne en main le régime. Voilà, alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Jeudi dernier, la CFDT et le patronat s'entendaient sur un document de cadrage contre les intermittents et intermittentes. Voilà, donc c'est la guerre qui est déclarée à nouveau pour le régime des intermittents. Ce qui était menacé aussi, c'était la durée d'indemnisation des plus de 50 ans, qui là va jusqu'à 3 ans. Et c'est les allocations qui touchent les personnes qui enchaînent les missions d'intérim et les CDD très courts, qui sont particulièrement dans le viseur des partenaires sociaux. Et la dégressivité des allocations a été évoquée par le patronat et voilà, elle est très controversée, bien sûr, par les syndicats. Voilà, donc ces négociations, ça a lieu tous les deux ans pour voilà, redéfinir les règles d'indemnisation de tout le monde pour coller aux évolutions du marché du travail. Marché du travail qui ne va pas dans le très bon sens. Voilà, donc comme négociation, donc il y a eu fin février des négociations, il y en a eu aussi deux en mars, il va y en avoir en avril, et le 7 et le 28, et ensuite le 12 mai. Voilà, du coup, la négociation UNEDIC risque de relancer la bataille sur le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle, dont les fameuses annexes 8 et 10. À l'été 2014, il y avait déjà eu un conflit lié à ces négociations comme ça. Et le gouvernement avait fini par prendre en charge une partie du coût de ça, quoi. Voilà. Et il avait promis de mieux intégrer les syndicats et les employeurs du spectacle aux prochaines discussions. Donc cette année, c'est les professionnels du spectacle qui doivent fixer leurs propres règles d'indemnisation et ils doivent respecter des principes qui permettent l'entente entre le patronat et les syndicats interprofessionnels. Voilà, donc officiellement l'État n'intervient pas dans ces négociations, mais c'est quand même un acteur clé de ce dossier puisque c'est lui qui garantit les emprunts de l'UNEDIC sur les marchés financiers et c'est lui qui assume à Bruxelles son déficit qui est un gros déficit apparemment. Voilà, et sinon qu'est-ce qui s'est passé là-dessus aussi, c'est que le gouvernement, voilà El Khomri notamment, avait parlé voilà du fait que ça n'allait pas parce que la France avait le durée d'indemnisation le plus long d'Europe, donc il fallait changer ça. Voilà, donc il y avait des discussions début février sur la durée d'indemnisation, la durée d'affiliation, le coefficient de conversion, c'est-à-dire le fait qu'un jour cotisé égale un jour indemnisé. Voilà, donc encore des luttes à mener, pas seulement dans le travail, mais aussi dans le chômage.
Ouais, et on continue sur le chômage tout de suite pour parler des nouvelles méthodes de Pôle emploi pour employer des jeunes, c'est-à-dire les services civiques. Alors les services civiques, c'est des contrats tout pourris hein, qu'on a vu apparaître en 2010, qui sont donc à la fois sous-payés, qui n'offrent absolument aucun droit au chômage, ni à la retraite. Et ce sont des contrats qui sont supposés, ils sont vendus comme ceux de l'engagement, de permettre aux jeunes, hein, donc les moins de 25 ans ou moins de 28 ans, de changer de monde en, alors les termes utilisés, c'est s'engageant volontairement au service de l'intérêt général. On va voir lequel juste après. En pratique, ça sert surtout à certaines associations ou institutions à bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée pour pas cher, le tout en étant aidé par l'État. Et donc en janvier, François Hollande, hein, qui combat toujours le chômage, a annoncé une augmentation du nombre de volontaires, c'est comme ça qu'on appelle les exploités du service civique, et il a annoncé qu'il y en avait 350 000 par an à l'horizon 2018. L'objectif pour 2016, c'est 110 000 volontaires. Et le gouvernement, du coup, communique à fond sur le sujet avec un très beau slogan qui est « Une mission pour chacun au service de tous » et notamment un concours photo où on propose de sauter en l'air en posant des photos sur Instagram pour vendre du service civique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Pôle emploi est en train de créer 2000 services civiques. Sur ceux d'entre vous qui fréquentent les agences Pôle emploi, on peut les repérer, ils ont des gilets bleus très visibles quand ils se déplacent. Alors officiellement, les services civiques à Pôle emploi ont pour mission d'accompagner les demandeurs d'emploi à l'utilisation des outils numériques. Comme tout le monde doit désormais s'inscrire sur Internet, ça veut dire en fait que les services civiques doivent former des personnes à un système qu'eux-mêmes ne comprennent pas vraiment parce qu'ils n'ont pas été formés dessus. Et puis ils réalisent des tâches qui vont bien au-delà et au quotidien, ils font par exemple, certains animent des ateliers de rédaction de CV, par exemple. Ils assurent aussi des missions d'accueil. Et puis dans un contexte où Pôle emploi, c'est le cas un petit peu partout nationalement, réduit les périodes d'ouverture de ces agences, et ben c'est eux qui sont en première ligne pour accueillir les demandeurs d'emploi qui sont forcément mécontents et qui parfois peuvent être un peu agressifs. Hein. On connaît tout ça dans les files d'attente qui s'allongent. Et puis au final, en fait, ils font plus ou moins le même taf que les agents de Pôle emploi, mais ils le font pour 573 € par mois pour 24 heures de travail. Le tout, évidemment, sans ticket restaurant ni chèque vacances, et bien sûr non cumulable avec une allocation chômage. Alors, pour toutes ces activités réalisées, hein, ils et elles ne reçoivent absolument aucune formation, ce serait trop beau. Et puis, de toute façon, il n'y a aucune perspective d'emploi, puisqu'ils seront bientôt remplacés par une nouvelle vague de services civiques, dites de volontaires. Il n'empêche qu'au quotidien, les services civiques se retrouvent souvent en difficulté face aux personnes qu'ils rencontrent, parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils sont un peu laissés tout seuls. Donc, pour résumer, hein, ce sont des personnes sans réel contrat de travail, payés au lance-pierre et pas formés, qui sont censés aider celles et ceux qui cherchent du taf ou qui cherchent juste à s'adapter pour que ça se passe pas trop mal aux nouvelles mesures de Pôle emploi. Donc on marche littéralement sur la tête et le service qui est rendu à ces jeunes, mais aussi aux chômeurs et aux salariés de Pôle emploi, n'a rien de très civique. C'est d'ailleurs ce que dénonce la CGT dans un tract qu'ils ont publié récemment. Alors la méthode de recrutement est assez simple, hein. Pour Pôle emploi c'est facile, en fait c'est souvent Pôle emploi qui propose aux jeunes qui n'arrivent pas à trouver un travail, c'est-à-dire l'immense majorité, de rentrer en service civique chez eux, avec cette éternelle pression que beaucoup connaissent, qui est si t'acceptes pas ce genre de contrat de merde, tu trouveras jamais un réel emploi, et du coup ils sont sous cette pression-là. Et puis parfois, en fait, ça se fait aussi avec une forme de pression qui ressemble beaucoup plus à du chantage. Et notamment Marion, qui est une volontaire qui a été interrogée par des camarades tourangeaux du site larotative.info, explique qu'en fait, après un an d'inscription sans trouver de boulot, elle n'a pas pu dire non à la proposition de service civique qu'on lui faisait, parce que son conseiller lui a expliqué que si elle refusait, la formation qu'elle avait commencée ne serait plus financée. Alors c'est un peu tant pis pour le caractère volontaire du service civique. Hein. Et puis bon. Donc pour conclure, une fois de plus, hein, les services publics ou assimilés sont des lieux d'expérimentation pour les formes de travail les plus précaires et les plus foireuses. Et puis c'est juste une raison de plus de descendre dans la rue pour montrer au gouvernement de quoi on se chauffe.
Eh ben, il y en a des raisons. Je reste quoi ? Sans transition, finalement, une autre lutte, une autre raison de se battre contre le gouvernement. Non, là, c'est la lutte contre les tests osseux. Donc là, dans les mains un communiqué du collectif jeune de RESF qui raconte l'histoire de Fanny. Fanny qui a 17 ans et qui a été soumise à de dégradants tests médicaux pour déterminer son âge. Sachant que Fanny, elle est arrivée début 2015 à Lyon. C'est la MEOMI, c'est la mission pour l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés étrangers qu'elle a vu en premier. Voilà, c'est un service du Conseil général du département qui est supposé la prendre en charge pour la protéger. À la base, c'est une mission de protection. Mais donc, elle est arrivée avec son acte de naissance du Cameroun. Et en fait, la mission pour l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés a douté de son acte de naissance. Du coup, elle a fait part de ses doutes à un juge qui a décidé de faire exécuter une expertise médico-légale, c'est-à-dire des radiographies et scanners de ses os et de ses dents. Sans tenir en compte du fait qu'elle avait un acte de naissance, qu'elle avait fait une demande de passeport à son ambassade, qu'elle a reçu son passeport à Paris fin décembre. Donc, sachant que c'est illégal normalement de faire les tests osseux s'il y a un passeport en fait. Donc ils ont quand même tenu absolument à lui faire faire les tests osseux, sans tenir compte du fait qu'elle expliquait qu'elle était menacée au Cameroun, qu'elle avait des menaces de mariage forcé, et que c'est pour ça qu'elle s'était échappée d'un voyage scolaire pour rester en France. Voilà, donc du coup elle était à l'hôpital mère-enfant et à Édouard Herriot. Donc le mardi, elle avait été prévenue qu'elle devait venir deux jours après pour des examens médicaux qu'elle n'avait pas demandé, avec son bébé qu'elle allait encore. Voilà, sachant qu'elle, pour le moment, elle est à l'hôtel, puisqu'elle n'a pas eu de demande de foyer depuis tous les mois, depuis qu'elle est arrivée. Donc voilà, c'est la protection laisse à le désirer. Du coup, à l'hôpital, il y avait des médecins et des infirmiers, qui lui ont fait faire tous les tests. Donc après les os, c'est la tête qui est immobilisée dans une espèce de carcan pour une radiographie des dents. Donc elle était obligée de se mettre nue pour un examen de son corps. Elle était traitée comme un objet, elle était inspectée sous toutes les coutures. Elle a eu des commentaires culpabilisants des médecins qui disaient qu'elle devait pas être vraiment mineure parce qu'elle avait l'air d'une personne mature. Enfin, du coup, en même temps, quand t'es enceinte, que t'as vécu tout ce qu'elle a vécu, enfin, tu peux avoir l'air mature à 17 ans, quoi. Enfin, bref. Voilà. Tout ça, ça va contre l'article 47 du Code civil qui prévoit que ce sont les actes d'état civil étrangers qui font foi. Sauf s'ils sont prouvés qu'ils sont faux. Mais donc là, c'était pas du tout le cas, c'était pas prouvé qu'ils étaient faux. Voilà. C'est la lutte qui continue contre ces tests osseux, puisqu'on sait aussi très très bien que c'est pas des tests fiables en fait. Qui permettent pas. C'est très flou. Ça donne une indication très très floue sur l'âge. Donc c'est très bizarre de prendre en compte ce qu'ils disent. Il y avait déjà le Conseil consultatif d'éthique en 2005, puis l'Académie de médecine en 2007, puis le Haut Conseil de la santé publique en 2014, qui avait jugé l'examen d'âge osseux non fiable pour déterminer l'âge d'une personne par rapport à la majorité. Voilà. Et il y a aussi le défenseur des droits qui s'est opposé à l'utilisation de ces examens médicaux qui sont jugés inadaptés, inefficaces et indignes. Donc voilà, si vous voulez soutenir la lutte d'RESF pour permettre à Fanny d'être plutôt hébergée et protégée plutôt que de subir des choses pareilles. Fanny et beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres mineurs isolés.
On va les remplacer tous à moi tout seul et les chasser à grands coups de latte dans l'oignon, t'entends?
Et maintenant, dans le Canu Info, la rubrique droit au logement.
La question, c'est de trouver des structures et des solutions qui soient un peu pérennes dans le temps.
Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière.
Alors, dans la rubrique du logement, qu'est-ce qui se passe? Bah ça y est, c'est la date officielle de la fin du plan froid. Mais donc à Lyon par exemple, il y a pas mal de structures d'accueil dans le cadre du plan froid qui sont prolongées jusqu'à fin mai. Donc voilà, c'est déjà ça pour certaines structures. Et Emmanuel Coste, la ministre du Logement, a annoncé la fin de la gestion au thermomètre. Alors ce serait vraiment chouette que ce soit vrai, hein. Ça, ce serait super. Elle était en visite à Lyon et elle a annoncé la création de 2300 places pérennes d'hébergement pour les personnes sans abri, dont dans le Rhône, 373 places du plan froid qui ne devraient pas fermer, du coup, selon ses dires. Et là, il y avait un plan de prévention des expulsions qui a été mis en route, ce qui n'empêche pas que là, c'est la fin de la trêve hivernale et que c'est vraiment les expulsions qui commencent d'ores et déjà. Là, ce serait vraiment chouette si enfin la gestion au thermomètre se terminait, mais on ne sait pas si on peut encore croire à ces promesses, parce que déjà, En 2013, c'est Cécile Duflo qui nous avait dit que la politique du thermomètre prendrait fin. L'année dernière, c'était Sylvia Pinel qui nous annonçait également que toutes les places d'hébergement seraient pérennisées. Et finalement, il y a toujours des remises à la rue à la fin de l'hiver, quoi. voilà. Du coup, cet hiver, il y avait quand même eu une hausse des places en structure d'hébergement, ce qui était toujours mieux, mais la demande de places d'urgence est quand même de plus en plus importante aussi chaque hiver, et chaque été aussi d'ailleurs. Là, dans le Rhône, il y avait 1100 personnes qui étaient hébergées dans le cadre du plan froid cet hiver, et la moitié était hébergée à l'hôtel. Du coup, si ce que dit Emmanuel Cos est vrai, et qu'il y a 373 places pérennisées, ça veut quand même dire qu'il y aura encore 750 personnes qui vont se retrouver dehors après la fin mai. Donc, la lutte continue pour essayer de qu'il y ait quand même de plus en plus de places et pour essayer de permettre de mettre en œuvre l'augmentation des places d'hébergement, puisque là, pour le moment, toutes les structures d'hébergement qui sont ouvertes toute l'année sont saturées, sont pleines, quoi. Et du coup, toutes les places en hôtel sont aussi complètement pleines. Voilà, donc on ne sait pas trop comment l'État va pouvoir procéder pour trouver à Lyon plus de 700 places et garantir la continuité de l'hébergement. C'est pour ça qu'il y avait une grève notamment des professionnels de l'urgence sociale qui a eu lieu fin mars. Et on peut rappeler qu'il y a encore 1460 personnes qui appellent le 115, plus toutes celles qui n'appellent plus mais qui sont encore dans le besoin de trouver une place. Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde. On évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste.
Les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et du coup, on inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique dans notre rubrique internationale. On a la chance d'être en lien avec des super reporters qui se trouvent au Kurdistan et notamment au Kurdistan Nord. Et du coup, on va essayer de toutes les semaines vous relayer des informations, des brèves qu'elles nous envoient de ce qu'elles constatent sur place. Et évidemment, l'État turc continue ses exactions. Et donc voilà les nouvelles des derniers jours. À Jever, anciennement Yesekova, Nusaybin et Sirnak, le couvre-feu se maintient depuis 16 jours. Les bombardements continuent à Sirnak et Jever. Des bombes ont explosé contre la police à Jever. Lys et Ahmed, anciennement Diyarbakir.
À Diyarbakir, un plan d'expropriation à large échelle se met en place dans le quartier déjà très touché de Sour. Sour, qui signifie citadelle, est le quartier ancien de la ville et centre de la résistance. Ce plan est dirigé directement contre cette résistance. Il vise aussi à créer une dépendance économique envers l'État en conduisant les populations déplacées à s'établir dans des blocs de résidences construites en périphérie des villes et dont les loyers sont alors proposés à taux réduit.
L'entreprise en charge des destructions comme des résidences, Toki, est une entreprise publique qui, depuis 2003, s'occupe de la vente de biens publics pour le privé. Depuis que les combats ont commencé à Sour, de nombreuses maisons ont déjà été pillées et détruites par les autorités turques. Souvent, l'État tente de dissimuler ces destructions en emportant et en jetant les corps et les débris dans le Tigre. Quelques personnes payent des enfants pour aller tenter de récupérer des matériaux ou des souvenirs dans les gravats. Actuellement, seuls 1000 habitants sont restés à Sour sur une population initiale de 28 000 personnes.
Officiellement, le couvre-feu a été levé, mais l'armée continue d'occuper et de bloquer l'accès à certaines parties du quartier. Des checkpoints ont également été déployés. La librairie historique de Sour a été détruite le 31 mars. Erdogan souhaite la destitution de 102 mairies du BDP, le Parti de la Paix et de la Démocratie. 17 maires ont d'ores et déjà été destitués et 15 arrêtés. À Istanbul, l'avocate Zeyşen Balsimcek, désolé pour l'accent, venue dans le cadre d'un procès intenté par l'État turc contre 22 avocats, a eu le dos brisé.
Quoi maintenant ? Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, un russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
l'agenda !
Alors, l'agenda, ce soir, un concert à l'Oblique. Concert punk hardcore avec Traître, Lost Boys, Litige et Zone Infinie à prix libre. Pour continuer, l'Oblique...
Ça va être comment, ça, d'ailleurs ?
Ça ? Ouais. Ça va être génial. Ensuite, l'Oblique fait un appel à soutien parce qu'il passe en procès le 4 avril. Est-ce que j'ai le temps de vous lire ?
Oui.
Allez, je vous lis l'appel. Donc, l'Oblique, grand squat d'activité situé au 15 avenue Albert Einstein et 13 rue du Canada, est assigné en procès par la municipalité de Villeurbanne ce lundi 4 avril. Rendez-vous donc à 9h au TGI de Villeurbanne, qui se situe 3 rue du docteur Pierre Fleury-Papillon. Cette ancienne usine qui abritait autrefois l'entreprise de dossiers suspendus, l'Oblique AZ, est inoccupée depuis 2012. Le bail de location signé avec la mairie, propriétaire des lieux, est rompu depuis 2015 et aucun projet ne concerne cet hectare d'usine laissé à l'abandon, en parfait état de salubrité et de propreté. Fin décembre 2015, le collectif La Travers, composé entre autres des habitants de l'Oblique, décide d'occuper les lieux afin d'y héberger des personnes en situation précaire et sans domicile, mais aussi dans le but d'en faire un lieu d'activité culturelle, artistique et pratique. Ainsi ont déjà été aménagés une salle de musique, un foyer, un atelier informatique, un espace mécanique autogéré, un local Big Tap qui est Big Tap, une salle de sport, une cuisine collective, une salle de concert, un stade de foot, un salon tatouage, un atelier sérigraphie, un atelier bois, etc. Ces différentes installations ont permis de mettre en place un programme hebdomadaire des différentes activités qui se déroulent chaque semaine à l'Oblique. Je pense que vous trouverez des programmes pour les activités. Il y a lundi après-midi théâtre, mardi réunion d'organisation du local Big Tap. Mercredi, le foyer est ouvert dès 16h. Bon, je ne vais pas tout vous faire, ça va être long. Mais...
il se passe vraiment plein de trucs.
Il se passe plein de choses, voilà, mais je pense que vous trouverez le programme. Mais l'Oblique s'est aussi révélé être un lieu idéal pour accueillir gratuitement les événements et les activités des associations et des collectifs ayant des difficultés financières et logistiques, dans un contexte de fortes coupes budgétaires dont les associations sont particulièrement victimes. L'Oblique a ainsi accueilli le camping des 8e rencontres de l'Eurocyclage, un événement national organisé par la Fédération des ateliers de réparation de vélos, qui s'est vu refuser le prêt d'un gymnase par la ville de Villeurbanne, alors que cette dernière sponsorisait symboliquement l'événement. L'Oblique héberge aussi des résidences de groupes artistiques ayant besoin d'espace pour répéter leurs spectacles. Et enfin, des associations utilisent ce lieu pour leur entraînement ou atelier hebdomadaire, comme l'association de roller derby de Lyon, par exemple. Donc, malgré plusieurs tentatives de la part du collectif d'habitants de l'Oblique et leur constitution en une association officielle nommée La Travers, la mairie de Villeurbanne a jusqu'ici refusé d'établir un contact direct et d'entrer dans de potentielles négociations quant à une utilisation concertée et publiquement utile des lieux. L'équipe municipale s'est contentée de passer par la case judiciaire en demandant au juge une expulsion rapide, comme dans n'importe quelle procédure de squat. Nous sommes convaincus que la question du logement suffit à défendre la logique des squats et à s'opposer à leur expulsion systématique. Mais si les locaux de l'Oblique servent en effet à l'hébergement d'un collectif de personnes en situation précaire, ces mêmes personnes et leurs réseaux sont porteurs d'initiatives qui dépassent le simple cadre de la question du mal-logement et posent notamment la question de la gratuité et du dynamisme du secteur associatif à Villeurbanne et dans ses alentours. Donc pour soutenir l'Oblique, venez nombreuses et nombreux au tribunal d'instance de Villeurbanne ce lundi 4 avril à 9h. Il précise aussi que si vous êtes une association et que vous pensez que l'existence d'un lieu comme l'Oblique est nécessaire, vous pouvez contacter la mairie de Villeurbanne pour leur faire savoir. Voilà.
Mais donc avant lundi, avant de vous rendre là-bas, vous avez tout le loisir ce week-end d'aller aux journées du logiciel libre. Donc c'est samedi et dimanche et c'est deux jours d'échange pour débutants ou avancés où il y aura des alternatives qu'offrent les logiciels libres. Il y aura des animations, des conférences, des ateliers pratiques de formation, des install parties pour mettre du libre sur votre ordinateur, du do-it-yourself pour fabriquer votre ordinateur, imprimer en 3D, et il y aura aussi un village associatif. Alors ça, c'est un événement qui aura lieu à la Maison pour tous qui se trouve dans le 3e arrondissement de Lyon. N'hésitez pas à regarder sur internet pour avoir l'adresse exacte. Il ne faut pas qu'on vous mâche le travail non plus. J'ai pas la deuxième page. Et c'est organisé par l'ALDIL, l'Association Lyonnaise pour le Développement de l'Informatique Libre, et par ILISE, qui a pour objet de promouvoir l'utilisation et le développement d'un réseau neutre et ouvert, respectueux de ses utilisateurs et de leur vie privée.
Et bien sûr, enfin, après avoir tout appris sur l'informatique et être allé défendre l'oblique, vous avez envie, notamment entre meufs, de faire de l'autodéfense pour vous donner de la force entre vous et de la force aussi, par exemple, en manifestation pour porter la révolution. Et pour ça, il faut s'inscrire un peu en avance. C'est pour ça qu'on vous parle d'un week-end qui a lieu le 28 et le 29 mai. C'est le prochain stage d'autodéfense féministe qui a lieu sur Lyon. Et donc, pour plus d'informations et surtout pour pouvoir s'inscrire, vous pouvez vous adresser un mail à autodéfense au singulier des femmes au pluriel, donc autodéfense des femmes @gmail.com. Et ce n'est pas tout, si vous voulez quand même avant rencontrer les personnes qui portent ce stage et connaître leurs actions, vous pouvez aller à leur réunion mensuelle qui aura lieu le mardi 12 avril à 19h au local féministe dans le 3e. Et si je ne me trompe pas, c'est rue Victoire,
oui,
peut-être. Je sais pas. Et voilà.
Alors on a presque fini à l'heure, bientôt c'est Noise Pollution, et je crois me rappeler que demain, autrement dans les rendez-vous dont on n'a pas parlé, il y a peut-être Ouria Boutelja, non, qui est à Terre des Livres, c'est ça, c'est Terre des Livres, qui est à Terre des Livres à 15h pour présenter
son...
il faut s'inscrire, parce que c'est un peu une star quand même.
Je sais pas.
Il faut dire tout le mal que vous pensez de son livre. Vous pouvez y aller.
On l'a pas lu, enfin je sais pas, tu l'as lu toi?
On en parle après.
Bon, si vous voulez débattre avec Ouria Boutelja, quelles que soient vos opinions, vous pouvez vous rendre à Terre des Livres, en tout cas leur envoyer un mail pour savoir s'il reste des places demain à 15h. Et voilà, et ben, bon week-end à Noise Pollution et sûrement à plus tard à l'Oblique.
Voilà, donc Noise Pollution, ça va être le 102.2. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. À la semaine prochaine.